Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, on n'apprendra à personne que les salles de cinéma sont fermées, mais à Cinérama, on a une solution. On attend les sorties DVD, les sorties VOD, on regarde ce qui se passe sur les plateformes. Bonjour Guillaume, bonjour Manu, bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pour tous les deux, ce sont des DVD.
Deux DVD qui sont sortis chez Artus, un film d'espionnage qui s'appelle « Des fleurs pour un espion », puis un autre qui est aussi de l'espionnage, mais un peu plus déviant, c'est Lucky l'Intrépide ou Opération Remida.
Et toi, Guillaume, c'est un film avec Sean Connery.
Oui, c'est ça, c'est Le Lion et le Vent de l'autoproclamé fasciste zen John Milius.
Quant à moi, j'ai vu David Copperfield d'Armando Iannucci, un film qui est diffusé sur une plateforme. Ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial adaptation de Charles Dickens. Vous n'avez pas révisé, mais
absolument pas.
Voilà, mais les auditeurs ont un petit moment, hein, parce que ce sera en plein milieu de l'émission. Et puis Marine nous parlera de Palmer, de Fisher Stevens, mais on va débuter cette émission avec un des grands succès du box-office français en ces temps de pandémie. 700 000 entrées pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec Laure Calamy.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Elle est où ta femme?
J'ai aucune idée.
Antoinette, je ne suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Tous les trois?
Non, pas toi, nous trois, avec Alice.
Antoinette est institutrice dans une école primaire de Paris. Si elle est la maîtresse de la petite Alice, elle est aussi celle de son papa, Vladimir, avec qui elle doit passer une semaine en tête-à-tête pour les vacances. Mais son amant lui annonce qu'il part faire de la marche dans les Cévennes avec sa famille, laissant Antoinette fort dépourvue. Fort dépourvue, mais décidée, elle prend un train et file dans le sud de la France en pensant retrouver Vladimir au départ du GR70, célèbre parcours de randonnée qui relie le monastier sur Gazeille à Saint-Jean-du-Gard. Si les retrouvailles adultères ne se déroulent pas tout à fait comme prévu, ce périple va être l'occasion pour la Parisienne de se découvrir une âme d'aventurière. Elle qui tombe toujours, comme elle le dit, amoureuse de la mauvaise personne au mauvais endroit, au mauvais moment, va se retrouver seule sur la route avec un âne prénommé Patrick, caractériel mais très attachant et qui va devenir son confident.
Vous marchez avec un âne?
Pourquoi? Pas vous?
Ah non.
On n'est pas les fous.
Bonjour Patrick.
Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête.
Et pour avancer?
Allez Patrick, avance!
Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein.
Avance!
Faut que tu lui montres qui est le maître.
Allez mon gros, on avance!
Qu'est-ce qui va pas?
Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde!
Initialement en sélection officielle du Festival de Cannes 2020 et succès surprise de la fin de l'été, Antoinette dans les Cévennes signe le retour à la réalisation de Caroline Vignal, ainsi que le premier rôle de Laure Calamy, comédienne des plus pétillantes qui trustait depuis quelques années les seconds rôles du cinéma français. Si son personnage d'institutrice éperdument amoureuse et quelque peu érotomane aussi n'est pas sans rappeler celui de la secrétaire dans la série 10% qui l'a fait connaître, elle montre encore une fois qu'elle maîtrise à la perfection le tempo comique et parvient à ajouter de nombreuses nuances à un personnage qui pourrait sinon vite devenir agaçant. Tout au long de son périple, elle va croiser une galerie d'individus, tous plus iconoclastes les uns que les autres. On sent d'ailleurs que la réalisatrice a choisi avec un grand soin ses comédiens, hein, qui parfois n'ont qu'une ou deux phrases à dire, mais parviennent néanmoins à faire exister un motard nomade, une cowgirl guérisseuse ou encore une tenancière de chambre d'hôte. Et puis, l'un des personnages principaux du film, c'est son cadre, les Cévennes, magnifiquement filmé. On redoute un peu au début que la comédie ne repose sur la confrontation entre des contrées sauvages et une bourgeoise parisienne. Mais heureusement, Antoinette dans les Cévennes s'avère davantage une comédie d'émancipation dans laquelle une femme pleine de désir explore de nouveaux paysages pour mieux se découvrir elle-même.
Je suis pas venue pour des bonnes raisons.
Antoinette !
L'important, c'est pas le but, c'est le chemin.
Arrête, Patrick !
Ne déjeunez pas avec nous ?
Ne déjeunez pas avec nous ?
Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal est actuellement en VOD et puis en DVD. Le Lion et le Vent, c'est un film avec John Huston et Sean Connery, et c'est toi qui nous en parles, Guillaume.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je suis El Raizouli. On ne se moque jamais de moi.
Dans la grande famille du Nouvel Hollywood, vous connaissez forcément des noms comme Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas ou Martin Scorsese. Ces talents qui ont émergé à la fin des années 60 ont redéfini le cinéma tel qu'on le connaissait et ont su écrire un nouveau chapitre de la grande histoire du 7e art, à la fois continuité logique et révérencieuse et innovation tonitruante chamboulant les codes. De toutes les œuvres qui seront issues de cette décennie, il y en a une qui va cristalliser plus que tout autre ce mélange hybride entre tradition et modernité, enseignement du passé et regard pointé tout droit vers l'avenir, c'est le Lion et le Vent de John Milius.
Le 15 octobre 1904, Madame Hélène Carter et ses deux enfants, résidant à Tanger, ont été victimes d'un enlèvement après l'assassinat de leur domestique et d'un invité, Sir George Kenyon Smith, sujet britannique. Il semble bien que ces actes criminels aient été perpétrés par Moulay El Raizouli, le chef de ces berbères du Rif dont les mœurs sont restées barbares. Le ministre britannique et moi-même estimons que ces brigands constituent une menace permanente pour tous les étrangers résidant au Maroc, et que l'envoi d'une escadre paraît s'imposer.
Au moment où sort le film, pile au mi-temps des années 70, Le Lion et le Vent a les fesses coincées entre deux chaises. D'une part, il semble être l'œuvre d'un réalisateur aguerri qui convoque toutes les sirènes hollywoodiennes du grand spectacle ancienne. Mais d'une autre, il est frappé par l'audace de ce même réalisateur, qui était pourtant bien plus jeune que ce que l'œuvre le laissait suggérer, et qui allait établir un pont avec ce que l'aventure sur grand écran allait nous offrir dans les années 80. En 1975, John Milius est loin d'être un inconnu et sa fraîcheur allait donner un coup de fouet dans une industrie en pleine mutation. Il est en effet l'homme derrière les meilleures pages des scripts de l'inspecteur Harry, de Magnum Force, mais aussi de Jeremiah Johnson et Juge et Hors-la-Loi. Il est même d'ailleurs le célébrissime monologue de Quint dans Les Dents de la Mer, celui-là même qui va donner toute sa dimension mythologique derrière les agissements du requin de Spielberg. Déjà réalisateur de Dillinger, fresque ultra-violente sur le non moins ultra-violent brigand, Le Lion et le Vent est uniquement son second film, et pourtant il y a comme un parfum de vieux sage un peu fou qui flotte dessus. Jugez plutôt. En 1904, au Maroc, alors que cohabitent non sans mal troupes françaises, allemandes et anglaises, une américaine et ses deux enfants sont capturés par le chef berbère El Raizouli, dit le Magnifique, dans le but de provoquer une guerre civile pour contrer la domination grandissante des grandes puissances occidentales. La captive ne sera pas une frêle et pâle victime, tandis que son fils va découvrir à travers le voile grossissant de l'enfance ce qu'il en coûte pour un personnage comme El Raizouli d'être à la hauteur de son statut de Magnifique. Ce kidnapping va provoquer l'attention du président Roosevelt lui-même et le dénouement va bien évidemment converger et s'incarner dans le fracas d'une bataille dantesque qui ne laissera que la légende intacte, celle qui forge les grands hommes et dont on narre les exploits au coin du feu.
Je veux que vous sachiez ceci. Moi, je ne suis pas un homme barbare. Je me suis instruit. Je suis non seulement le chef, mais l'éducateur de mon peuple. Ne me prenez pas pour un barbare. Voyez-vous, ces quatre hommes ont porté atteinte à mon honneur. Ils ont mangé les fruits de mon oasis et ils ont osé boire l'eau de mon puits. Ils sont coupables envers moi. Et ils n'ont témoigné aucun remords ni aucune gratitude en adressant une prière à Allah. S'ils ont du respect pour moi, c'est parce que je refuse de m'incliner devant les Européens.
On le voit, Milius n'en a rien à faire des drogués, vagabonds et autres paumés qui peuplaient le cinéma américain des années 70 désenchantés. Ce qui l'intéresse, c'est l'épique, les figures d'envergure et les problèmes qui vont avec. Le Lion et le Vent, c'est sa version de Lawrence d'Arabie. C'est une fable vaguement inspirée d'un fait réel qui parle de rébellion et d'indépendance, qui mêle les écrits de Joseph Conrad et de Rudyard Kipling et qui fait s'affronter de grands enfants sur la tombe de l'ancien monde en train de disparaître. Dans le film, c'est le passage au XXe siècle et ses ravages qui sonnent les trompettes funestes des rois du désert. Dans l'industrie cinématographique, c'est à l'ancien Hollywood, remplacé par un nouveau public et de nouvelles préoccupations, que Milius vient saluer la mémoire dans cet ultime baroud d'honneur qui invite même John Huston dans un petit rôle truculent. Pour autant, Le Lion et le Vent, tout aussi anachronique qu'il pourrait paraître, n'en est pas moins porté par un souffle moderne qui annonce le renouveau vigoureux de l'action telle qu'on la connaîtra dans les années 80 avec des films comme Les Aventuriers de l'Arche Perdue, où il est question de confronter modernité avec passé à travers les yeux d'un personnage furieusement attachant. Et c'est bien sûr sans s'attarder sur le Nietzschéen Conan le Barbare réalisé par notre cher Milius, lui aussi, en 1982. Alors en somme, Le Lion et le Vent, c'est l'homme qui tue à Liberty Valance, mais raconté à la manière d'une chanson de gestes pulp et furieuse. Autre pont hein, qui reprend un poncif du passé qui mènera à l'éclectisme moderne des années 80, on retrouve dans le rôle d'El Razouili le magnifique Sean Connery, qui n'en sera pas sa dernière incarnation ethnique improbable, puisqu'il jouera 10 ans plus tard Juan Sanchez Villalobos Ramirez, le mentor de Christophe Lambert dans Highlander. L'éditeur Rimini donne au Lion et au Vent un bel écrin pour son édition Blu-ray et rappelle qu'il est un authentique chef-d'œuvre d'écriture et du cinéma d'aventure, de celui qui emmerde notre époque aseptisée et fait tremper la lame de son épée dans le sang de ses ennemis moroses. Pour vous laisser emporter, vous n'aurez besoin que des premières notes de la musique enflammée de Jerry Goldsmith, qu'il réutilisera d'ailleurs certains accords hein, pour son non moins exceptionnel score de La Momie 25 ans plus tard. Mais qui sait, peut-être que vous atteindrez vous aussi à sa vision La Baraka d'El Razouili, le magnifique.
Ce film est donc disponible en DVD. Un film maintenant sur une plateforme, c'est une nouvelle adaptation de Charles Dickens, l'occasion de jouer un blind test autour eh bien, des adaptations du romancier britannique. Nous allons parler maintenant de David Copperfield.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Les plateformes ont quelques exclusivités à nous réserver en ce début d'année, comme Amazon Prime qui propose une adaptation de Dickens, l'histoire personnelle de David Copperfield. Celle-ci est mise en scène par Armando Iannucci, réalisateur britannique à qui l'on doit l'hilarant La mort de Staline. David Copperfield a déjà été mis en scène, comme beaucoup de romans de Dickens, notamment par George Cukor en 1935. Alors autant le dire que plus de 70 ans après, l'histoire est dépoussiéré, mais tout l'univers de Dickens y est, hein. Contrairement à d'autres adaptations qui ont changé d'époque. Là, nous sommes plongés dans l'Angleterre victorienne, dans un Londres grouillant. La dure condition des pauvres, l'enfance malheureuse, mais aussi une certaine fantaisie sont conservées. Et les plus fervents admirateurs de l'univers de Dickens ne seront donc pas dépaysés par les thèmes, mais sûrement par les partis pris de mise en scène d'Armando Iannucci. Alors, il nous offre des personnages très marqués, radicaux hein, dans leur représentation, mais ils mettent aussi de côté leur appartenance ethnique. Ainsi, David Copperfield est interprété par Dev Patel, l'acteur de Slumdog Millionaire. Tel banquier est asiatique quand sa fille est métisse noire. Même cas pour la mère d'un des meilleurs amis de Copperfield, dont la mère est noire alors que lui est parfaitement blanc. Ce renversement ethnique est une riche idée, n'est pas anodin. On se débarrasse d'un préjugé pour s'intéresser davantage aux propos des personnages et leurs actes. De plus, David Copperfield est quelqu'un qui singe les autres, hein, leurs mots, leurs mimiques. Alors il note dans des cahiers les phrases des uns et des autres et parvient aussi à retranscrire les postures et intonations. Alors ce qu'ils disent a bien plus d'importance que leur physique. Ce parti pris est donc une réussite. Alors il n'est plus question, comme il fut un temps dans le cinéma américain, de parler de quotas hein, pour la représentation des minorités. Avec le système mis en place par Armando Iannucci, on peut imaginer Tom Sawyer asiatique, Luke Skywalker noir, Jean Moulin indien, pourquoi pas.
Thank you.
Sorry, what was your name?
Copperfield.
This is Copperfield.
David Copperfield.
Mais rappelons vite quelle est l'histoire de David Copperfield. Orphelin de père, David Copperfield va être chassé par son beau-père dans une fabrique à trimer toute la journée hein, et il va trouver les ressources de s'en défaire pour petit à petit accomplir son destin d'écrivain. Le livre de Dickens s'attache à retracer la lente ascension sociale et surtout intime d'un jeune homme qui, subvenant péniblement aux besoins de sa bonne tante tout en continuant ses études, et bien finit par devenir donc un grand écrivain. Le rythme qu'impose à son film Armando Iannucci est soutenu. Le livre est à la première personne et le film l'est aussi. David Copperfield est de tous les plans. Il apparaît surtout en interaction avec les autres personnages. Alors le jeu vire parfois au cabotinage, mais c'est au prix d'une fantaisie qui peu à peu devient contagieuse et chasse la peinture sombre de cette époque. David Copperfield est une réussite, offrant un récit tendu, solidement interprété et mis en scène. Donc ce film est disponible sur la plateforme Amazon Prime. C'est l'occasion de jouer. Donc un blind test qui parle des adaptations de Charles Dickens à l'écran.
Il faut se rappeler, qu'est-ce qu'a écrit Charles Dickens surtout ?
Déjà, David Copperfield, déjà.
Oui. Non, mais Oliver Twist. Hein.
Oui, eh bien, par exemple, hein, ça pourrait être ça.
Espérance.
Eh bien, on va voir si c'est dans le blind test. Allez, premier extrait, donc trouver un titre d'une adaptation de Charles Dickens à l'écran.
Il faudrait que tu me rendes un service qui demande beaucoup de prudence et de précaution.
Ce serait quoi, ça ? En tout cas, j'irai pas chez les flics. Ça, il n'en est pas question.
Il n'y a pas l'ombre d'un danger, je t'assure. Non, pas l'ombre. Je veux que tu files quelqu'un.
Qui ?
Une femme.
Une vieille ?
Une jeune.
Qui ça ?
Une des nôtres.
Qui ? Nancy ?
Chut !
Quoi ? Elle a fait quelque chose ?
Je suis pas sûr qu'elle ait fait quelque chose, coquin. C'est pour ça que je vais la faire suivre. Elle a peut-être envie de parler à des gens à qui elle ne devrait pas parler. Je veux savoir où elle va, qui elle voit, ce qu'elle dit.
Ça a été trouvé.
C'est Oliver Twist par Roman Polanski.
Film de 2005, adapté du roman du même nom de Charles Dickens, publié à partir de 1837. Alors, orphelin bien décidé à quitter l'entreprise de pompes funèbres dans laquelle il est exploité, Oliver Twist débarque à Londres et y découvre un monde cruel où seul compte la ruse et la force. Et là, il y rencontre aussi un homme qui souhaite l'adopter. C'est un film qui a été fait après Le Pianiste. Il voulait en tout cas faire un film un peu plus léger à destination de ses propres enfants. Nombre d'entrées en France, 1,5 million. Deuxième extrait de ce blind test consacré aux adaptations de Charles Dickens.
Vous trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille ?
Je vous prie de m'excuser, monsieur, je suis un tout petit peu en retard.
Vous l'êtes, en effet. Venez par ici.
Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Mais ça ne se reproduira pas. J'ai pris un tout petit peu de bon temps hier soir.
Je dois vous dire, monsieur Cratchit, que je ne peux pas davantage laisser aller les choses comme cela. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que je me propose d'augmenter votre salaire. Joyeux Noël, mon cher Bob.
Trouvez, Guillaume.
C'est le drôle Noël de Scrooge, tourné de manière particulière avec la performance capture.
De Robert Zemeckis, et donc produit par Walt Disney en 2009. Et c'est l'adaptation du classique de Charles Dickens, A Christmas Carol, traduit en France sous deux titres, Un chant de Noël ou Un conte de Noël. Il y a eu plus de 75 adaptations de ce roman à l'écran, j'ai choisi celle-ci. Alors parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Et il y a un jour, et bien qu'il déteste plus que les autres, c'est Noël. Mais il va vivre un Noël évidemment particulier, c'est avec Jim Carrey, Gary Oldman et Colin Firth. Et donc, comme tu l'as dit, c'est une technique de prise de vue particulière. Nombre d'entrées en France, 1,4 million. Troisième extrait de ce blind test.
Avez-vous une idée du nombre de chats qu'il y a dans notre pays ?
Le nombre ? Non. Je sais pas les... Non.
Il y en a 27 millions. Et vous savez combien de chiens ?
En Amérique.
48 millions.
Miaou !
Nous dépensons 4 milliards de dollars rien que pour leur nourriture.
Vorace.
J'ai là une étude faite par des chercheurs de l'université, selon laquelle les chats et les chiens commencent à regarder la télévision. Si ces savants ne se trompent pas, il faut prévoir des programmes à leur intention, parce que d'ici 20 ans, ils seront de fervents téléspectateurs.
Des programmes pour chats ?
Venez avec moi, Franck.
Alors, ça n'a pas été trouvé en studio. Alors, je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous avez trouvé. Alors, ce sont deux... Alors, bon, évidemment, ce sont des voix françaises, mais ce sont les voix françaises de Bill Murray et de Robert Mitchum.
Ah, c'est Fantôme en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est une nouvelle adaptation de Scrooge, d'ailleurs.
Oui, oui.
De Richard Donner. Ouais.
Richard Donner, sorti en 1988. Frank Cross est le jeune directeur d'une chaîne de télévision et il s'est transformé en carriériste. Et pour Noël, il a préparé une version brutale et grossière d'un chant de Noël, le célèbre conte de Dickens. Mais la veille de Noël, il va voir apparaître différents fantômes. Là, c'est une adaptation bien différente de Scrooge. Seulement 212 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test consacré aux adaptations de Charles Dickens.
Tout le monde avait parié sur le fait que tu viendrais ou pas.
Louper le mariage de mon petit frère.
C'est ce que je leur avais dit. Toutes les conneries que tu oses faire, c'est pour coucher avec des femmes mal dans leur peau. Mais au fond, t'es un grand cœur.
Oh, je n'ai pas de secret pour toi.
Et tous ces sarcasmes, c'est pour cacher la profonde affection que tu as pour Paul.
Hé, je ne cache rien, je te jure. Et sache que je suis prêt à enlever entièrement le reste de mes fringues pour te le prouver.
Ah, les fameuses insinuations sexuelles. Ce bon vieux Connor Mitch, je te reconnais bien là. Mais ton secret sera bien gardé avec moi. Je ne dirai à personne que tu peux avoir des sentiments.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, peut-être que vous l'avez... Moi, je ne l'avais pas vu. Hein. Je
pense
vous le dis tout
pas
de suite.
Avoir vu ça.
C'est la voix française de Matthew McConaughey. C'est une comédie romantique sortie en 2009 de Mark Waters, hanté par ses ex. Alors, c'est pas une adaptation directe d'un chant de Noël, mais ça reprend le même principe. Voilà. C'est-à-dire qu'il va recevoir la visite de fantômes qui vont susciter chez lui eh bien, des interrogations. C'est l'histoire d'un photographe de People, Connor Mead, qui enchaîne les conquêtes féminines et la seule femme qu'il ait réellement aimée est son premier amour, Jenny, une de ses amies d'enfance qui semble résister à sa tentative de saboter le mariage de son frère. Et donc, il va recevoir la visite de plusieurs fantômes. Ça n'a pas vraiment bien marché hein, sur les écrans. 156 000 entrée en France. Dernier extrait de ce blind test.
Vous savez ce que je voudrais ? Je voudrais un peu d'argent pour les dépenses courantes.
Je suis navrée, ce n'est pas
d'accord.
Du tout...
D'accord.
Il y a autre chose ?
Oui, je voudrais de la publicité autour de mon expo.
Personne n'a encore entendu parler de vous, ça paraît un peu difficile.
Un marin-pêcheur venu du golfe du Mexique accoste sur les rivages de Manhattan. Moi, c'est le genre d'histoire que j'aime bien lire.
Mais c'est qu'on a le médiatique dans le sang.
Ouais, on apprend.
Appelez Myriam, elle y réfléchira.
Je vous laisse arroser ça sans moi, je suis en retard.
Mais dis donc, c'est pas une marrante.
Bah, un artiste lui a claqué dans les doigts, il y avait un trou dans son planning.
Ouais, on dirait vraiment que quelqu'un essaie de changer le crapaud en prince.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Vous savez très bien ce que je veux dire. Tout se passe comme si une bonne fée était ma marraine.
Donc ça a été trouvé ? Il y avait quelques indices quand même.
C'est Des grandes espérances de Alfonso Cuarón, son premier film américain.
Film de 1998 avec Ethan Hawke et Gwyneth Paltrow. Adaptation moderne du célèbre roman de Charles Dickens. Alors cette fois-ci, c'est transposé à notre époque. Et ça a pour cadre la Floride où le pipe de Dickens est devenu Finn et son oncle forgeron, un patron pêcheur. En sauvant un prisonnier évadé, eh bien, sa destinée va changer. Et seulement 65 000 entrées en France pour le premier film donc, d'Alfonso Cuarón aux États-Unis. C'est pas beaucoup.
Je vous conseillerais les adaptations de Dickens faites par David Lean qui sont disponibles chez nous en DVD Blu-ray. C'est absolument somptueux, vraiment.
Ainsi s'achève ce blind test donc consacré aux adaptations de Charles Dickens à l'écran, puisque nous parlions de David Copperfield. Un ex-détenu, ancienne star de football universitaire, Eddie Palmer, se lie d'amitié avec un jeune garçon délaissé par sa mère Junkie. C'est Palmer de Fisher Stevens. C'est une exclusivité d'Apple TV+.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Palmer sort de prison après avoir purgé une longue peine de 12 ans de réclusion. Il revient vivre dans sa petite ville natale de Louisiane auprès de sa grand-mère, ville dans laquelle il fut autrefois une star du football américain, et tente difficilement de se réinsérer professionnellement malgré la méfiance des habitants à son égard. Sa grand-mère s'occupe d'un petit garçon rejeté par sa mère parce qu'elle est toxicomane et rejeté par les autres enfants parce qu'il est efféminé et qu'il aime par-dessus tout le rose et les fées. D'abord méfiant à son égard, Palmer va devoir prendre soin de lui lorsque sa grand-mère décède et une étrange amitié va progressivement naître entre l'enfant, pas comme les autres, et l'ancien détenu qui doit réapprendre à vivre.
I'm glad you're back.
Si ce n'est qu'il permet à Justin Timberlake de revenir au cinéma, Justin dont nous avons tout tellement aimé la musique lorsque nous étions ados, Palmer s'avère quand même un film assez oubliable, de bonne composition, mais totalement cousu de fil blanc. C'est une énième histoire de rédemption, aux apparences de film social indé, à la lumière très soignée par un chef-op qui use et abuse du flair. C'est une gentille histoire qui commence mal et se finit bien, en forme d'ode aux différences qui célèbre la vie simple, les vraies valeurs telles que l'amitié, la loyauté, l'honnêteté et le travail. Oui, c'est un film un petit peu feel good, hein, qui ne vous laissera probablement pas un grand souvenir, mais qui ne vous fera mal ni aux yeux ni à la tête, et qui permet à Justin Timberlake de composer un personnage plus sombre que son image de chanteur de R&B face à Juno Temple, comme souvent excellente, ici dans un rôle de mère junkie dans lequel elle fait forte impression.
Careful, Palmer, it's hot. Pinkies, please.
Mmh.
Yes.
Mmh. Real good.
Palmer est donc disponible sur la plateforme Apple TV+. Des fleurs pour un espion d'Umberto Lenzi et Opération Remida de Jess Franco, un pur fumetti plus proche de Diabolique que du cinéma d'espionnage traditionnel, écris-tu sur le site de Culture au Point Menu. Tu nous en parles maintenant.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Opération Goldman d'Antonio Margheriti n'est plus orphelin. La collection Eurospy s'agrandit enfin chez Artus avec deux nouveaux titres. Alors pour les néophytes, hein, ce genre connu sa petite consécration entre 63 et 67 suite au succès de James Bond contre Dr No. Alors même si l'origine se trouve du côté de la France avec OSS 117 N'est pas mort de Jean Sacha d'après Jean Bruce en 1957. Mais il faudra attendre 1963 pour voir à nouveau le célèbre espion Hubert Bonisseur de la Batte sur les écrans sous la direction d'André Unbel. Alors le premier titre, hein, Des fleurs pour un espion, suit les aventures rocambolesques de l'agent Martin Steven, alias Super 7 de Umberto Lenzi. Alors plus à l'aise dans le polar et le giallo, hein, le cinéaste semble un peu dépassé par un univers qu'il ne maîtrise que par intermittence. La faute en premier lieu à un scénario indolent dont l'intérêt s'étiole progressivement. Alors au point que vers la fin, ils te font un résumé de l'ensemble parce qu'on a un petit peu décroché du scénario. Alors pour faire simple, hein, disons que le valeureux Martin Steven est engagé par les services spéciaux britanniques pour abattre trois suspects détenteurs de la formule d'une arme secrète capable de neutraliser tout courant électrique dans un large rayon. Voilà, il s'envole pour Paris dans un premier temps, puis pour Genève, où il rencontre la belle Geneviève, une journaliste qui lui propose de l'aider. Alors tous deux partent ensuite pour Athènes, suite à un mystérieux message codé. Les roses bleues sont arrivées ce matin. Alors d'un scénario sans grand relief, Umberto Lenzi tire néanmoins son épingle du jeu, accumulant les scènes d'action efficaces, un humour bon enfant et un exotisme de pacotille, marque de fabrique de ce type de production. La mise en scène abuse de zoom inutile, mais parvient à distiller un certain charme suranné malgré l'interprétation déficiente du phallocrate Roger Brown, comédien américain vraiment peu expressif. Et non, il n'est pas italien, d'habitude ils ont tous des pseudos, mais là il s'agit réellement d'un acteur américain qu'on a vu dans quelques péplums. Il est heureusement entouré d'une pléiade de jolies donzelles sexy, parmi lesquelles se distingue Emma Danieli et surtout l'étrange Yoko Tani qui incarne ici le péril jaune.
Par conséquent, votre mission ne pourra être considérée comme terminée tant que vous n'aurez pas mis ces trois adversaires hors d'état de nuire. Ils ont déjà été identifiés et j'aurai leur fiche signalétique d'un moment à l'autre, ça vous sera utile.
Mais je ne vois pas à quoi ça sert de les supprimer étant donné que j'ai récupéré l'électroscomètre gamma.
Stevens, imaginez que l'un des trois hommes ait appris par cœur le principe et les données essentielles relatifs à l'appareil. Il cherchera à se mettre en contact avec nos rivaux et nous devrons empêcher ses fuites coûte que coûte. Et puisque nous ne savons pas lequel des trois a une assez bonne mémoire pour retenir ces données...
Pour éviter de courir des risques, il est préférable de se débarrasser des trois.
C'est ça.
Changement de ton, Manu, avec Opération Remida.
Alors, retour de nouveau à Neurospy avec le délicieux Opération Remida, hein, connu aussi sous le titre Lucky l'Intrépide et signé par l'iconoclaste Jess Franco. Alors, dès les premières minutes, l'Espagnol s'écarte radicalement du genre, visiblement peu intéressé par l'Eurospy. Il avait déjà flirté avec le genre, avec les excellents Cartes sur table et sa barbe pour les mignonnes, tous deux avec Eddie Constantine. Décomplexé, il pousse les curseurs encore plus loin et délivre un pur fumetti, plus proche de Diabolique hein, que du cinéma d'espionnage traditionnel. D'ailleurs, à la fin du générique d'ouverture, l'agent Lucky Mulligan braque un flingue vers l'écran déguisé. L'image est figée et un phylactère indique, alors en italien, « Sono il re dei fumetti », je suis le roi de la bande dessinée. Lors d'un bal costumé particulièrement savoureux, il est contacté par la société secrète Archange afin de mener à bien sa mission. Il est amené à enquêter sur une organisation criminelle dirigée par Golden Glasses qui inonde le monde de faux billets. Et c'est parti pour 1h30 de folie intégrale, cumulant dialogues non sensiques, gags burlesques et érotisme gentiment coquin. Alors derrière l'idiotie assumée, Jess Franco règle ses comptes avec un genre sous-tendu par un racisme ordinaire, présentant notamment l'Albanie comme, c'est dit dans un petit carton, un pays, un petit et étrange pays à la mauvaise réputation. Mais heureusement, un pistolet albanais ne peut viser qu'à côté, ratant systématiquement sa cible. Dans un éclair de génie, Franco s'amuse à résumer aussi l'intégralité de l'histoire à la toute fin, se moquant résolument d'une production, ne cherchant qu'à surfer sur le succès des Bond. Mais le plus surprenant demeure la belle tenue de la réalisation, particulièrement soignée, tant du point de vue du montage alerte que de la photographie colorée et très pop, qui doit autant aux expérimentations d'un Orson Welles que de Mario Bava. Opération Remida se déguste à sa juste valeur, un plaisir régressif et réjouissant pour une mirette interprétée par un formidable comédien, Ray Danton, essentiellement connu pour son rôle dans La chute d'un caïd de Bud Bottischer. Il excelle en agent adepte de déguisements incongrus qui ne le rend pas incognito pour autant. Au contraire, partout où il promène sa silhouette, tout le monde le reconnaît, gag récurrent particulièrement jouissif et l'une des nombreuses raisons de ne pas passer à côté de cette parodie euphorique dont on se demande parfois comment les producteurs ont pu laisser passer une telle liberté de ton. Alors dans cette œuvre à la fois populaire et avant-gardiste, conçue comme une BD live avec des récitatifs ironiques, Jess Franco nous transmet tout son amour pour la bande dessinée. Pour toutes ces raisons, cette incursion décalée au sein de l'Eurospy fait l'effet d'une véritable cure de jouvence, déployant un univers doudingue où les agents secrets du monde entier se rendent à un marché des espions pour s'échanger les informations secrètes. Alors que demander de plus ? Alors bénéficiant en plus de copies restaurées, les deux films sont accompagnés d'une présentation éclairante de Christophe Beer, un spécialiste du cinéma bis qui intervient souvent sur France Culture, hein, qui ne cache pas néanmoins sa préférence hein, pour Opération Remida en toute logique.
Donc ce sont deux DVD qui sont disponibles chez l'éditeur Artus.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Pour la semaine prochaine, messieurs, vous avez déjà vos films ?
Oui, bah pour la sortie VOD et du film de Hong Sang-soo, La femme qui s'est enfuie.
Et toi, Guillaume, un grand film ?
Eh ben moi, je reste en 1975, je reste avec Sean Connery et avec John Huston, avec L'homme qui voulut être roi.
À la semaine prochaine.